France Culture.
France Culture. La vie réelle se porte mieux si on lui donne ses justes vacances d'irréalité. Gaston Bachelard, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en plongée ce soir au cœur des amours japonaises les plus malaisantes et scintillantes, celles des amateurs d'érotisme numérique, d'amandes pixelisées, d'âmes sœurs en 2D et d'amis chimériques et disponibles à volonté. Un monde que connaît parfaitement notre invitée Agnès Giard qui leur consacre un livre richement illustré et structuré et pensé, paru aux éditions Albin Michel. Chronique en second temps d'émission, signée Céline Duchesnay, Sixtine Aubert et Fausto Fazulo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui retrouve ce soir, après combien d'années, 10 ans, hein, facilement, hein, 10 bonnes années, Agnès Giard. Bonsoir Agnès Giard.
Merci beaucoup.
Bienvenue à Mauvais genre pour votre seconde visite. La précédente, c'était sur les amours japonaises déjà, je crois.
L'imaginaire érotique
japonais. Il y avait déjà un festival extrêmement intéressant et très varié de tout cela, mais ce soir, vous focalisez sur un sujet bien, bien particulier, les amours artificielles, c'est-à-dire.
Alors, c'est presque la suite. Hein. Mm-hmm. Les temps ont changé.
Tiens donc.
Donc, il y a une nouvelle donne. Les nouvelles générations, probablement, ont pris conscience que le monde était fragile, qu'il fallait en finir avec la posture humaniste qui place donc nous en posture de domination du monde au sommet de la hiérarchie. Et ils ont élaboré une forme de contre-culture extrêmement marginalisée, hein, au Japon. Personne n'aime beaucoup ces gens-là qui s'affichent de façon provocatrice en compagnie d'êtres fictifs issus des mangas, des jeux, des dessins animés, parfois des hologrammes, des avatars. Et ils s'affichent pour montrer qu'il y a d'autres manières d'aimer.
Très bien, ben, ces autres manières d'aimer que nous aimons tout particulièrement à Mauvais genre, Céline Duchesnay, les paraphilies.
Vous voulez que je vous parle de moi?
Sondophilie, ah non, ça je n'oserais
non,
pas.
Non.
Quoique.
Mais je me souviens que j'avais interviewé Agnès Giard pour Mauvais genre en 2013 et en 2014, justement, à ce sujet-là. On avait parlé quand on avait fait l'émission SAD au Japon. Agnès Giard avait été interviewée sur le BDSM façon japonaise. Et je me souviens aussi que dans l'encyclopédie pratique des mauvais gens, je l'avais interviewé sur les petites culottes sales japonaises. Donc, vous voyez, on en connaît un rayon déjà
bien.
Grâce à Agnès Giard.
En tout cas, merci pour cette invitation de Agnès Giard ce soir. Céline, invitation que vous portez en attendant que vous portiez et que nous portions en triomphe votre livre chez Michel Lafon sur le cabaret.
Oui, qui va sortir mercredi. Superbe couverture où on voit Corinne, c'est Sébastien Vion de
Minou.
Dos. Minou. Et c'est une photo qui a été prise par Laurent Polleret. Je crois qu'on peut le dire. Et c'est un livre qui raconte l'histoire du cabaret, je dirais, du chat noir, du premier cabaret artistique. Non, pas tout à fait.
Allons
on
jour.
Remonte au 19e, c'est déjà pas mal, il y a de quoi raconter jusqu'au cabaret queer d'aujourd'hui qui sont tout à fait florissants en ce moment et depuis, je dirais, une petite quinzaine d'années.
Très bien, on en parlera aussi dans les temps futurs. Oui.
Et puis je peux peut-être juste, pour clore le sujet du cabaret, rappeler que le 22 octobre, nous allons fêter justement le cabaret au cabaret et célébrer le lancement du livre, mais vraiment à travers un cabaret qui sera à la machine du Moulin Rouge, pardon, le mercredi 22 octobre, et ce sera sous la houlette de Monsieur K, avec tous les plus grands
artistes. Et ça, c'est de la houlette.
Et je sais que vous serez dans la salle, François.
Ah, oui. Qui sait, oui. J'arriverai avec une barbe mauve.
Le 22 octobre.
Bonsoir, c'est... Céline Audebert, ça va plus. Bonsoir Sixtine Audebert. Alors, notre invitée Agnès Giard vous remémore sûrement des souvenirs un peu lointains de votre participation à Mauvais Genre. Nous étions à Lyon, plus spécialement à Villeurbanne, et nous étions allés faire un reportage chez quelqu'un qui, ma foi, travaillait aussi sur la question des amours artificiels.
Oui, qui était l'unique fabricant français de Love Dolls.
Voilà.
Et donc, effectivement, nous nous étions rendus dans son show. Room, ce n'était
pas,
pas
sur
le lieu de la fabrique, on n'avait pas vu l'atelier, c'était, on avait fait donc une prise de son au Nagra et ce petit monsieur était très très gêné de parler de ces beaux objets qu'il faisait avec amour, hein,
absolument,
parce que c'était des pièces absolument magnifiques.
Et qu'il nous a montré démontées, donc il y avait des têtes sur un canapé, des troncs sur un autre, des jambes sur un troisième.
Oui, il y avait aussi beaucoup de très belles poupées entières.
Hein, et des poupées rassemblées, je veux dire. Voilà. Mosto Fazulo, bonsoir.
Bonsoir. Moi, j'ai pas eu la chance de participer à cette visite de showroom de Love Dolls.
Moi, je pense que elle est peut-être toujours réalisable. Mosto Fazulo, rédacteur en chef d'Atome. Donc, vous avez déjà consacré des articles ou des travaux à ce sujet d'Agnès Giard ce soir?
Non, pas directement, mais en revanche, sachant qu'Atome est une revue d'investigation, on a interrogé de nombreux mangaka qui sont revenus en détail sur la culture otaku, par exemple. Et puis la manière dont elle a été ensuite dévoyée et les derniers résistants, on va dire, de ce milieu.
Mad Movies, dont vous êtes également le directeur, qui contient en son numéro 397 un émouvant et érudit, comme à son habitude, une émouvante et érudite évocation de Jean-Pierre Bouixou par Christophe Beer, que je vous recommande à toutes et à tous, que vous écoutiez cette émission ou pas, car nous n'oublierons pas Jean-Pierre Bouixou. Eh bien maintenant, j'ai demandé à Laurent Polleret d'évoquer les amours artificielles japonaises. Eh bien, voilà.
またワンピースか。なんて思ってるかもしれないけど、これ前菜だから。私補足できる衛星かなり増えたみたい。OBD アダプター接続完了。新たな警報をキャッチ。ノイアノア。警告します。ノイア。1キロ圏内にオービスです。
マイカのこと。マイカのマイカの。マイカのこと。マイカのマイカの。
いや。
C'était qui les
voilà. L'amour artificielle japonaise, l'un exemple, les amours par GPS, Céline Duchesne.
Eh bien, je crois qu'il serait temps peut-être de représenter à nouveau Agnès Giard aux auditrices et aux auditeurs, de dire que elle est anthropologue avant toute chose. Elle est aussi connue parce qu'elle tient depuis 2007, je crois, Agnès Giard, cette chronique qui est pour moi totalement iconique, qui est les 400 Q que vous tenez à Libé et qui, pour moi, fait vraiment figure de une forme de je dirais de figure pionnière même de tout ce qui touche à la culture des sexualités. À une époque où on n'en parlait pas trop. Donc pour moi, Agnès Giard, c'est vraiment la référence par rapport à toute cette culture des sexualités, parce que c'est toujours vu par le prisme de l'anthropologie et des sciences humaines. Donc Agnès Giard, c'est aussi une grande étagère qu'il y a dans mon salon, où il y a à peu près tous ses livres. Donc je peux citer par exemple l'imaginaire érotique au Japon, la cité, les objets du désir au Japon, un désir d'humain, les love dolls au Japon, le sexe bizarre, et j'en passe et j'en rate.
Alors cet ouvrage est plus particulièrement consacré donc aux amours artificielles. Alors Agnès Giard, on a en Occident, n'est-ce pas, comme on dit toujours, notre beau début, on a en Europe et en Occident des cas comme ça d'amours artificielles. Vera ou Eva, l'élève future de Villiers de l'Isle-Adam, c'est un robot et sont des amours artificielles, puisque la perfection de la machine engendrée par Edison se substitue peut-être à la réalité passagère, la mort étant là, de la chose. Il y a Hans Bellmer, la poupée, bon, qui est quand même une histoire d'amour entre un homme et un objet, qu'il a lui-même confectionné, à la différence des personnages que vous évoquez, qui eux héritent d'un imaginaire et d'objets confectionnés par d'autres. Donc il y a Belle-Mère, il y a Kokoschka. Kokoschka, le jour où Alma Mahler lui dit, écoute, Oscar, tu es un garçon délicieux, mais je m'en vais, totalement désemparé, le peintre viennois, Oscar Kokoschka, conçoit lui-même une sculpture, une poupée, qui représente Alma Mahler et avec laquelle il vit et continue de couler des jours heureux. Franchement, j'imagine moins heureux que quand le modèle était là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement du modèle japonais par rapport à ce que nous connaissons d'une manière, je veux dire, très particulière en Europe?
Alors, oui, premièrement, le phénomène n'est pas typiquement japonais. Hein, il traverse l'histoire de toutes les sociétés humaines, dans le sens que l'humain possède cette extraordinaire capacité de prendre ses désirs pour la réalité.
Voilà.
Donc de projeter finalement des images, de rêves dans des formes, de s'attacher à des choses. Alors, pourquoi parler du Japon en fermant terrain? C'était pas du tout pour essentialiser ce pays, l'exotiser, regarder ces Japonais, etc. Justement, c'est complètement, c'est dans un but contraire que je suis allée là-bas. Là-bas, d'une certaine manière, il y a un contexte très singulier qui donne à cette tendance naturelle de l'humain une coloration, je dirais, plus intense, dans le sens que la population tout entière est confrontée à une crise économique telle que une grande partie des nouvelles générations ne peuvent plus fonder de foyer. Les hommes et les femmes sont condamnés à rester seuls, à mourir seuls et sans descendance. Une grande partie d'entre eux, en tout cas, sont acculés au célibat. Et il faut savoir qu'au Japon, on ne peut pas avoir d'enfants si on n'est pas marié et si on ne se coule pas dans le moule d'un modèle matrimonial qui assigne aux femmes le rôle de femme au foyer, chargée d'élever les enfants, et aux hommes le rôle de pourvoyeur principal, chargé de se sacrifier pour tenir à bout de bras la famille. Donc, les personnes qui, d'une certaine manière, renoncent à reproduire ce modèle, se tournent vers des personnages fictifs qu'ils vont chercher dans la pop culture japonaise et dont ils font leur partenaire de rêve. Et ils se tournent vers eux comme d'un moyen de fonder une sorte de para-religion, de culte, façon de renvoyer la société tout entière à l'idée selon laquelle il existe une autre voie possible vers la réalisation. Il existe peut-être des chemins de traverse pour trouver le bonheur hors du cadre édicté par la société. Et d'une certaine manière, oui, il est possible d'être célibataire et, à défaut d'être totalement épanoui et heureux, du moins de s'amuser. Et ce jeu très ironique et scandaleux leur permet aussi d'être dans des postures de défi. Ils sont à la fois dans une détresse et dans une colère, dans une frustration parce qu'ils se sentent les laissés pour compte de la société. Et en même temps, à travers ces personnages, ils expriment l'espoir de trouver d'autres voies d'accomplissement qui seraient, disons, plus spirituelles.
Céline.
Alors, Agnès Giard, c'est une enquête que vous avez menée sur 8 ans. Très longue enquête où vous avez donc rencontré un certain nombre de personnes qui ont donc une histoire d'amour avec un être virtuel ou un être de fiction. Vous disiez au tout début de l'émission que ça touchait une petite partie assez infime de la population, que c'était des gens qui n'aimaient pas trop en parler, qui étaient mal jugés pour ça. Donc comment est-ce que vous avez fait pour rentrer en contact avec ces gens et pour qu'ils puissent à chaque fois vous raconter leur histoire, puisque le livre est composé d'un certain nombre d'histoires d'amour entre une personne que vous avez rencontrée et un être de fiction?
C'est pas si compliqué, en fait. Ils sont très désireux de s'exprimer et de faire porter leur parole au-delà des frontières de l'archipel, dans le sens que il y a une volonté presque prosélyte de partager, en fait, ses convictions. Parce qu'on peut véritablement parler d'un mouvement politique sous-tendu par une révolte. Donc ce mouvement de dissidence est mal perçu. mal compris par la plupart des médias, qu'il assimile à une phobie du monde, un rejet des êtres humains, une dysfonction, un trouble mental, un handicap. Enfin, les mots ne sont jamais assez forts pour, d'une certaine manière, stigmatiser les personnes qui s'affichent en couple avec des personnages. Et donc, quand un chercheur prétend travailler sur ce terrain comme moi et d'une certaine manière montre patte blanche, hein, tout simplement en disant bah écoutez, j'aimerais comprendre. Il suffit de dire ça en fait et tout de suite les personnes lèvent le bras pour pouvoir s'exprimer.
Alors ces personnages peuvent représenter et peuvent avoir quelle forme ? Ils ont une réelle on peut les toucher, on peut les voir, on peut se promener dans la rue et en croiser ?
Alors beaucoup le but étant de matérialiser la présence de ces êtres pris donc dans des contenus de pop culture, c'est-à-dire des mangas, des jeux, des dessins animés. Pour les matérialiser, on peut acheter des parfums qui reproduisent l'odeur du personnage qui lui-même porte un parfum. Donc, d'une certaine manière, on porte le parfum du parfum tel qu'il est lui-même transformé par la peau du personnage. Il est possible de les boire. On peut littéralement se couvrir de l'image du personnage sous la forme de bijoux, d'ongles qui représentent son portrait, de vêtements. Il y a ses couleurs. On a des sacs à son image, des portefeuilles. On le met sur son écran de téléphone portable pour le toucher en permanence, on peut l'entendre la nuit en écoutant des dramas CD dans lesquels il est possible d'entrer en dialogue par le biais d'enregistrements qui sont faits par les doubleurs du personnage dans le dessin animé ou le jeu. Il est aussi possible de le dessiner soi-même. Et la plupart, alors là je vais parler par exemple du yaoi, les femmes qui sont amoureuses de personnages tirés de Otome Games par exemple ou de manga, Otome Games étant des jeux de simulation amoureuse, font des para-histoire sous la forme de manga amateur dans lesquels elles mettent en scène leur bien-aimé dans des situations parfois extrêmement érotiques afin de répandre le culte. C'est-à-dire, il s'agit de montrer que le personnage est à ce point irrésistible qu'il suffit de lire toutes les histoires qu'il suscite en imagination pour que d'autres personnes aient envie de l'aimer à leur tour et que le culte se répande. Alors on le voit, hein, c'est un amour très particulier qui demande beaucoup d'abnégation. On ne peut pas être jalouse des autres femmes qui vont aimer le même personnage.
Fausto ?
Un commentaire et aussi une question. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant, en fait, c'est que ces personnes-là puisent dans la culture populaire de masse, mais leur geste est contre-culturel, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, ces personnages-là qui les fascinent et qu'elles vont s'approprier complètement, en fait, sont issues de productions plus ou moins mainstream, même si elles sont distribuées à un niveau local. En tout cas, elles ne sont pas forcément underground. Mais en revanche, le geste un peu paroxystique dans leur démarche est vraiment contre-culturel. Est-ce que ces personnes-là, tout à l'heure, vous parliez justement, Agnès Giard, de certaines formes d'actes politiques. Est-ce que ces personnes-là ont conscience justement de cet acte politique ou est-ce qu'il s'agit juste d'un épanouissement personnel qu'elles ont trouvé sous cette forme-là ?
Alors, je vous donne un exemple très précis. Akihiko Kondo, qui est vraiment la personne la plus connue dans le domaine, puisqu'il a épousé Hatsune Miku en son nom propre. C'est-à-dire, il a...
C'est qui Hatsune Miku ?
Hatsune Miku pop idole virtuelle, à l'origine un logiciel de synthèse vocale associé à une marionnette numérique qui fait des concerts à travers le monde entier sous la forme d'un simili hologramme, donc une chanteuse extrêmement connue avec une voix qui peut pousser dans les infra-aigus au-delà des limites de l'audition humaine, donc un personnage extrêmement séduisant, est épousé par Akihiko Kondo, un homme qui travaille pour comme fonctionnaire dans une administration et qui affirme sur les réseaux sociaux qu'il publie ses bans à l'avance, au défi de toute sa hiérarchie. Il est convoqué, on lui demande de retirer cette publication, d'annuler ses fiançailles, hein, littéralement. Il tient en tête. il a failli perdre son travail, il reçoit des menaces de mort, et malgré tout, il se marie avec elle de manière publique, c'est-à-dire qu'il y a des caméras qui filment tout. Il a invité 39 personnes, pourquoi ? Parce que mi coup, mi veut dire 3, 9 se dit coup, donc il voulait qu'il y ait autant d'invités que le nom de sa chérie, et de, parmi les 39 personnes, il y a plusieurs hommes politiques qu'il a spécialement fait venir pour le soutenir. Et donc là, on voit bien que cet homme qui épouse en 2018 et qui lance un véritable mouvement pour montrer qu'il est possible de le faire publiquement en tenant tête à la société tout entière, et il le fait en compagnie d'hommes politiques qui vont le soutenir.
Sixtine ?
Oui, vous battez déjà en brèche un certain nombre de clichés dans tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai que spontanément, lorsqu'on pense à ces amours virtuels au Japon, on a tendance à s'imaginer plutôt des pratiques masculines. Et vous avez déjà dit qu'il y avait effectivement aussi des pratiques féminines. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la répartition genrée ?
Ah, justement. Bah en fait, c'est 50-50. Mais les femmes sont... je dirais visuellement plus offensive, hein, dans le sens que elles forment des communautés qui se réunissent dans des lieux publics, notamment à Ikebukuro, qui est considéré comme le sanctuaire des femmes, des otome, des adeptes, hein, de otome games, et elles se réunissent avec des sacs à l'image de leur bien-aimé, de façon à pouvoir échanger des images et à créer des liens entre elles pour créer une sorte de front, de front comme en bataille rangée, quoi. Plus elles s'affichent et plus, d'une certaine manière, la honte recule. Hein, c'est le but.
Il y a plus une dimension de collectif, j'ai la sensation, justement, chez les femmes. En fait, il y a quelque chose d'un petit peu plus structuré. Vous parliez, justement, des fanzines, des doujinshi, tout ça, etc. J'ai la sensation que il y a une sorte de solidarité. Peut-être que le mot est un peu fort, mais il y a cette sensation de collectivité et de sororité qui est un petit peu plus présente, je trouve, que chez, alors peut-être que c'est un point de vue un petit peu décalé ou biaisé, mais j'ai cette sensation-là, en tout cas, en lisant votre livre et aussi en ayant lu plusieurs articles qui parlaient de ces sujets-là.
Alors, il est vrai que les hommes se sentent moins, comment on pourrait dire, légitimes à faire corps ensemble, dans le sens qu'on pourrait les soupçonner d'une certaine manière de créer un mouvement para-incel. Mmh. Alors qu'avec les femmes, au moins, cette accusation est moins facile à porter. Raison peut-être pour laquelle, effectivement, ils ont d'autres armes, et leurs armes, un peu comme Akihiko, consistent à épouser des personnages en donnant leur nom et leur nom de famille et leur prénom. Mmh. C'est en affichant leur identité réelle, alors que les femmes, elles, ont tendance à le faire de manière plus anonyme.
Mmh. Monday comes slowly, I feel a bit out of touch. With all this daily heartache, it hurts me so much. I cannot help it if I'm hard to love. There's things about me that you don't know. I don't like acting tough. You can be serious and I can be mysterious. Share my feelings every day, but you'll just smile at me and say, I love you, baby, and I love you, doll. Times they get tough, but my heart won't change at all. I love you, baby, and I love you, doll. Tuesday come gently, I feel a little blue. I used to shine deep bright red when I was with you. And everything changed, only I stayed the same. All my blue skies turned to gray and all my flowers turned away. You can be serious and I can be mysterious. Share your feelings every day, but I'll just smile at you and say, I love you, baby, and I love you, doll. Times they get tough, but my heart won't change at all. I love you, baby, and I love you, doll. It's too hard.
bagnole de trucs choisie par Laurent Polleret. Céline.
Je me posais la question, Agnès Giard, de l'utilisation de ces personnages de fiction. Est-ce que ils ont une présence, je dirais, un petit peu à l'eau de rose, romance, ou alors est-ce qu'il y a une réelle pratique érotique avec ces personnages?
Alors, la romance, c'est érotique, hein, le prince charmant.
Alors,
etc.
Est-ce qu'on passe à la dimension supérieure?
Alors, dimension supérieure, oui, on touche l'écran tactile, on parle avec le playboy à la voix aphrodisiaque qui vous adresse des mots doux, et puis on passe ensuite au lit, donc, toujours en sa compagnie, mais cette fois sous une autre forme, celle d'un dakimakura, un coussin à étreindre, qui reproduit la figure en trompe-l'œil du bien-aimé, torse nu, la main sur la braguette, sourire enjôleur, la tête appuyée dans des draps qui eux-mêmes sont reproduits en trompe-l'œil, mais très très froissés donc, hein, pour simuler donc un émoi intense. Et donc, serrant contre soi ce coussin, on peut écouter les fameux dramacidis qui reproduisent sa voix dans le noir, tout en caressant quelque chose dont on ne sait plus au fond qu'est-ce que c'est, mon Dieu. Voilà. Comment ça se passe?
Mais financièrement, ça demande un investissement important de la part de l'amoureux,
alors,
de l'amoureuse.
C'est là où ça devient très intéressant. C'est-à-dire, les hommes politiques ont d'une certaine manière, comme d'habitude, un peu comme ils ont déjà récupéré la pop culture japonaise en lançant le label Cool Japan, qui est une imposture, et bien maintenant, ils prétendent récupérer ce mouvement en l'assimilant à une lame de fond consumériste sous le nom de Oshikatsu. Et ils disent, ah, c'est merveilleux, tous ces gens qui aiment des personnages, parce que cela va permettre de remettre l'économie du Japon sur les rails, de redresser le PIB, continuer, les jeunes, c'est très bien, etc. Alors, une récupération politique totale, contre laquelle toutes ces nouvelles générations se lèvent, en disant, mais écoutez, l'argent, soit on le dépense, il y a une industrie entière, de fait, qui s'est créée, qu'on a contribué à créer autour de nos amours, mais il faut bien comprendre que le but n'est pas de faire tourner la machine, le but n'est pas d'entretenir le mythe de la croissance infinie, mais exactement le contraire. Nous voulons brûler les vaisseaux, ne rien laisser derrière nous, nous allons dépenser tout notre argent, toutes nos économies vont être jetées par la fenêtre, et c'est la stratégie de la terre brûlée.
Céline.
Vous dites aussi d'ailleurs dans votre livre que c'est un véritable acte de résistance aussi de la part de ces amoureux de personnages imaginaires, parce que quelque part c'est remettre aussi complètement en question le modèle qui est offert à la société japonaise, à savoir un homme, une femme qui se marient et qui font des enfants. Donc à partir du moment où on refuse d'être dans la norme, en empruntant cette voie-là, c'est un chemin de contestation, en sachant que ce n'est pas un pays où, comme par exemple ici, on ira faire des manifestations et faire des grèves. C'est comme si le chemin n'était pas frontal, était plus, peut-être aussi en fonction de la culture japonaise, tout simplement.
Oui, effectivement, au Japon, merci. au Japon, il n'y a pas de manifestation depuis les années 60, hein, pour des raisons historiques qui seraient ici trop longues d'expliquer. Mais disons que le modèle de sortir dans la rue avec des pancartes ou avec ses seins sur lesquels il y a écrit quelque chose qu'on va faire lire à tout le monde n'est pas valide, n'est pas considéré comme très efficace en tout cas, et qu'on a mis en place pour remplacer ce modèle d'affrontement une stratégie biaisée. Oblique, qui est le conformisme parodique, c'est-à-dire renvoyer à la société l'image en miroir déformante des normes qu'on souhaite justement remettre en cause en les reproduisant. D'où justement le côté très mièvre parfois de certains scénarios de otome games, c'est-à-dire de jeux de simulation amoureuse, qui sont peuplés de bellâtres insupportables, de princes aux yeux bleus.
C'est une imagerie très...
C'est une imagerie très parfaitement standard, hein. Caricaturale. Ouais. Alors, et hyper genrée, avec des hommes beaucoup trop sexy, qu'on appelle des ikemen d'ailleurs, des beaux gosses, ou des potiches quand ce sont des jeunes filles avec des petites voix de pinson comme on a entendu tout à l'heure. Alors tout ça paraît effectivement aller dans le sens des normes. Et en réalité, c'est une manière de renvoyer aux gens, comme Céline l'a très bien expliqué, l'idée que ces normes-là sont factices. Pourquoi ? Parce que du moment qu'on les reproduit, qu'on les simule avec un être fictif, on montre que tout ça est illusoire, que tout est fake. Mon personnage est fake et de même que votre bonheur standard, de même que votre modèle matrimonial qui ne correspond plus à rien, qui est complètement désajusté par rapport aux attentes. Les hommes et les femmes ne veulent plus reproduire ce schéma.
Oui, Agnès, vous parliez de Oshikatsu, et c'est vrai que il y a un mot, je sais pas si on peut parler d'un concept qui revient effectivement dans le livre, c'est celui d'Oshi. C'est vrai que il y a une expression française, avoir un hobby, là, avoir un Oshi, qu'est-ce que c'est, en fait?
Alors, Oshi veut dire mon favori, mon personnage préféré. Oshi Kiara, c'est mon personnage préféré. Mais ce qui est très intéressant avec le mot Oshi, qui est souvent utilisé seul, sans Oshi Kiara, c'est qu'il regroupe, c'est un mot parapluie qui regroupe aussi bien les pop idoles réelles que les pop idoles virtuelles, les stars du sport, les animateurs de télé, que des personnages, donc, issus de la pop culture, manga, jeux, vidéo, ou des VTubers, il y a des virtual tubers, des streamers humains qui se font passer pour des personnages de jeux vidéo. Bref, Oshi regroupe toutes les personnes, les êtres, qu'elles soient de chair et d'os ou imaginaires, qui ne pourront pas répondre en retour. Donc cela désigne en fait les amours impossibles, et Oshikatsu désigne la vie avec une personne qu'on est condamné finalement à imaginer à ses côtés, mais ça ne sera pas possible. Là, il y a un aspect un peu triste, finalement, de l'Oshikatsu. Une sorte de mélancolie, en fait.
De résignation, quelque part aussi.
Alors, résignation, je me méfie un peu de ce mot, parce que ça voudrait dire que, d'une certaine manière, c'est un pis-aller. C'est-à-dire, à défaut d'un humain, je reporte mon affection en direction d'un personnage. La plupart de mes interlocuteurs, hommes et femmes, disent le contraire. C'est-à-dire, ça n'est pas moi qui l'ai rencontré. C'est ce personnage qui m'a sauvé la vie. C'est lui qui m'a tiré d'affaire. Je lui dois tout. A priori, ces personnes, d'ailleurs, se désignent pas comme des personnes qui ont une tendance à aimer dans le rêve. C'est aussi une autre expression qu'ils utilisent souvent. Ils disent, non, moi, a priori, j'avais envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants.
Et certains l'ont fait, d'ailleurs, parmi les gens
que vous avez rencontrés. Et en plus, oui, certains l'ont fait. Et n'y ont pas trouvé tout, voilà, c'est pas si gratifiant que ça. Quand on doit travailler et qu'on ne peut plus voir sa femme et ses enfants, on se pose vraiment la question de savoir si on a bien fait de se marier. Et quand on perd son job, la question se pose de manière bien plus cruelle encore. Bref, qu'ils soient acculés au célibat ou qu'ils aient fait le choix, parfois regrettable, de se marier, toutes ces personnes me disent « je ne me suis pas résignée en épousant ou en vivant en couple avec un personnage, je l'ai fait parce que c'est une manière d'agir aussi sur la société. C'est une façon de changer les scripts. »
Ben, changer les scripts, tout à fait. Mais néanmoins, on fait quand même appel à des structures traditionnelles. Je vois qu'il y a des pèlerinages, il y a des lieux de culte, il y a des objets cultuels qui renvoient quand même au patrimoine spirituel et aux rites funéraires japonais. Enfin, au mariage. Il y a donc quand même une volonté, alors, soit de déstabiliser les structures traditionnelles ou au contraire de les utiliser pour implanter quelque chose.
Moi, je dirais qu'on les récupère.
On les récupère, voilà.
Oui, on les met aussi.
Il y a des pèlerinages, c'est extraordinaire.
Oui, oui.
Un chapitre sur les pèlerinages.
Alors, peut-être expliquer. Donc, un pèlerinage au Japon, c'est pas aller d'un point A à un point B, c'est faire un tour. Peut-être en 8 d'ailleurs, à l'anneau de Moebius, et faire au cours de ce petit tour, on va s'arrêter devant des autels pour faire une prière, et la prière d'une certaine manière va concrétiser la rencontre avec la divinité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Love Plus. Donc, c'est lancé par Konami. Trois petites copines virtuelles au choix.
Comment ça, François ? Je ne comprends pas.
J'avoue.
Tu ne joues pas à Love Plus ?
Oui, je suis choquée.
Assez peu.
Donc, voilà. Donc, nous apprenons que... Donc, Love Plus est très connu au Japon,
oui,
en tout cas.
Ah oui, Agnès Girard en parle dans ses derniers livres.
Donc... ces petites copines peuvent inviter leur master, leur maître, donc leur amoureux, à partir en vacances, juste deux jours, hein, quand même, faut pas exagérer, attention, on est au Japon, à Atami, qui est l'endroit où toutes les noces de les nuits de noces, les lunes de miel, etc., sont effectuées par les Tokyoïtes. Tous les jeunes couples y vont, et donc les petites copines virtuelles sur l'écran tactile disent, partons à Atami, et là, ils ont mis en place, en fait, pendant un temps limité, 3 mois, un système de bornes qui était réparti dans toute la ville, et les amoureux, les kareshi, allaient de borne en borne pour se prendre en photo devant un magnifique point de vue, puisque la borne correspondait à un très beau point de vue, un panorama romantique, et magie. La borne était munie d'un QR code permettant de faire apparaître la petite copine sur l'écran. Donc, brusquement, elle se matérialisait. Donc, ces bornes ont été assimilées à des portes des étoiles, d'une certaine manière, des endroits où la conjonction peut s'établir entre notre monde, entre l'ici-bas, et le monde parallèle qu'ils appellent Nijigen.
C'est quasiment une dimension angélique, quoi.
Après, oui, ce sont des êtres célestes qu'il faut faire descendre.
警告します。1キロ圏内にオービスです。制限速度は60キロだよ。分かってる？間もなく取り締まりエリアです。やれ、オーバーを立てるわ夜の。停止とかね。使者の弔い怒りの道。メイドの土産に語り継ぐ。ダビに伏すものように荒らず。気をつけて。来世開港お池のほとり。 ムクロが笑う夜な夜なおどる白むく羽織しされ神戸コンタクトまで世に溺れる英知の影浮かばぬ魂亡者の涙闇夜に更けるは聖者の行事が己の生まれしこの地で行く 雲の末にこの地で行く塔婆を立てるは夜の淵塔婆を立てるは夜の淵塔婆を立てるは亡者の弔い塔婆を立てるは死者への弔い目一つ目二つ塔婆を立てる目一つ
J'aurais bien aimé revenir sur l'importance des sentiments et des émotions parce que on peut peut-être il y a quelque chose en tout cas quand moi j'ai lu le livre que j'ai trouvé de tout à fait passionnant, c'est que à la fois les amoureux, donc les utilisateurs de ces personnages de fiction sont tout à fait lucides, ils savent exactement ce qu'ils font, ce sont pas des gens qui sont en effet reclus et qui ont une vie imaginaire tellement forte qu'ils en oublient la réalité, ils sont inscrits dans la réalité, mais tout en étant tout à fait inscrits dans la réalité, il y a de véritables sentiments qui se développent pour ces personnages imaginaires, et le drame peut arriver dans le sens où ces personnages peuvent aussi mourir, alors pour des raisons qui appartiennent aux jeux vidéo ou en tout cas à des structures qui peut-être les dépassent, et ils doivent faire le deuil de leur personnage. Alors, ça paraît pas non plus propre au Japon. On a tous vécu la mort d'un personnage dans un film ou dans un livre et on s'en est parfois remis avec difficulté, mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est encore plus développé au Japon, en tout cas vu de l'extérieur.
Oui. Bon, personnellement, je me suis jamais remise de la mort de la maman de Babar.
C'est pour ça que je dis que nous avons la même chose.
La fiancée de Spider-Man.
Oui.
Ouais. Il y a des fois des chocs traumatiques dans les mondes de fans qui sont redoutables.
Oui, oui, oui. Donc, en fait, oui, encore une fois, hein, c'est pas un
sauf qu'il n'y a pas un dispositif qui a été organisé après pour que vous puissiez faire votre deuil de la maman de Babar.
C'est ça. C'est-à-dire que nous, alors s'il faut opposer eux à nous, nous, pauvres occidentaux, nous ne bénéficions pas des rituels que les fans japonais ont pu mettre en place. Mais bon, c'est assez récent, en fait, dans l'histoire du Japon. Donc tout commence, le premier rituel funéraire pour un personnage, il est lancé par un écrivain japonais qui s'intéresse beaucoup à la boxe. De fait, il a été chroniqueur de boxe. Et il s'avère que un personnage de boxeur dans un manga appelé Ashita no Joe est mort, ce qui a provoqué un scandale tel que les lecteurs de la bande dessinée ont adressé des pétitions pour qu'il soit ressuscité.
Et ça n'a pas marché.
Et ça n'a pas marché parce que il était important qu'il meure pour la suite du scénario. On pouvait pas non plus refaire toute l'histoire pour plaire aux lecteurs. Et donc à ce moment-là, cet homme a cette idée de génie de dire invitons toutes les personnes qui sont tristes à rendre un dernier hommage à ce personnage qui s'appelait Rikishi. Il organise donc les premières, le premier rituel funéraire bouddhiste en présence d'un prêtre qui va réciter les sutras, faire sonner le gong, etc. Et l'idée en fait fait son chemin. Elle est reprise quelques années plus tard pour un autre personnage. Et puis progressivement, les fans eux-mêmes se disent mais. Essayons nous-mêmes de gérer le flux des morts qui augmente parce qu'il s'avère que avec le succès, la popularisation des otome games, donc les jeux de simulation amoureuse, un nombre de plus en plus important de personnages se mettent à mourir sur les smartphones. Il faut savoir que les otome games sont des jeux gratuits qu'on peut télécharger sur son téléphone portable. Et comme ils sont gratuits, finalement, l'économie est plus fragile. Et ces jeux qui, au départ, pouvaient durer 7 ans, ne durent plus à l'heure actuelle que 2 ans et demi ou moins. Et donc, on court le risque, quand on tombe amoureuse, de perdre son personnage. Alors, que faire? Et c'est là où il y a une sorte de déchirement. Est-ce que je vais continuer sa vie dans ma tête ou en faisant des bandes dessinées dans lesquelles je raconte ses aventures, etc. Ou est-ce que je célèbre quelque chose en compagnie de mes amis? Donc il y a des cercles qui se créent, parfois en ligne, au cours duquel, au moment même où le jeu s'arrête, puisque les fabricants de jeux annoncent l'heure, le jour, l'heure, la minute à laquelle le jeu va s'arrêter, et donc les personnes se tiennent par la main, pleurent, échangent des mails au moment où l'écran devient noir. Et puis d'autres personnes se disent mais non, en fait, il peut continuer à vivre, il suffit que je crée des fanfictions et effectivement beaucoup de ces personnes ne se résolvent à jeter les figurines, les goods, tous les objets qu'elles possédaient à l'image de leur bien-aimé que parfois 10 ans après la fin d'un jeu.
Fausto.
Non, je me souviens effectivement, j'avais vu des photos de ce rite funéraire pour Toru Rikishi, donc l'un des personnages de Hashita no Jo. C'est vrai que ça a été un tournant et je me souviens avoir vu aussi des images de fans de Twin Peaks au Japon qui avaient organisé les funérailles de Laura Palmer.
Ah ben oui.
Donc ça, ce que j'entends par là, que ça a dépassé aussi le simple stade de la fiction japonaise, c'est-à-dire que effectivement, ça s'est étendu aussi à des fictions étrangères, mais tout ça a été porté par des fans évidemment nippons. Ouais.
Oui. Mais à Niagère, tout ça, évidemment, c'est un monde. Mais le cosplay, par exemple, c'est tout à fait un autre monde. On peut avoir des gens qui s'habillent en leur héros régulièrement, c'est autre chose.
Est-ce que c'est autre chose?
Là que je pose la question.
Ah,
le alors, faux naïf.
Ah, ouais, pardon. Alors, oui. Eh bien, oui, c'est une déclaration d'amour, effectivement. C'est une autre manière de déclarer son amour. C'est-à-dire, on peut porter le personnage sur soi sous la forme de broches ou de bijoux, ou de parfums, donc. Et puis, on peut l'incarner, c'est-à-dire se laisser littéralement remplacer, c'est-à-dire offrir son corps en holocauste à la présence du personnage, afin que son âme descende dans votre enveloppe charnelle, qui devient littéralement habitée par l'être chéri. Et on assiste à ce moment-là à des phénomènes de dissociation, qui sont bien sûr pas des dissociations relevant du trouble mental, hein. Tout ça reste sous contrôle, mais tout de même, les émotions telles qu'elles m'ont été rapportées sont assez troublantes. Il s'agit véritablement de faire poiler les frontières entre le réel et l'irréel.
Pour conclure, Céline.
Est-ce que vous pensez que, enfin, donc, cette enquête a été menée sur 8 ans, est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que ce qui se passe, ce phénomène-là, fait un petit peu bouger les lignes? Est-ce qu'on peut imaginer que le modèle du mariage à l'ancienne pourrait être remis en question, ou la famille japonaise pourrait être remise en question?
Alors, c'est le but. Et effectivement, bien tôt ou tard, il va quand même falloir trouver des solutions, puisque la natalité baisse à cause donc de cette crise économique. La situation ne peut pas durer éternellement.
Vous parlez même d'un compte à rebours, je vous coupe, mais ce fameux compte à rebours, voilà, avec le dernier enfant,
J'allais en parler. Donc, un sociologue qui voulait tirer la sonnette d'alarme a créé une horloge démographique à retardement.
On dirait un film de science-fiction, mais...
Oui.
L'horloge de l'apocalypse.
Ça, voilà, ouais. L'horloge de l'apocalypse, le jour où il ne restera plus qu'un Japonais au monde, fixé à l'an 2665. Enfin, ça n'arrête pas de changer. Donc, bien évidemment, c'est pour rire, parce que d'ici là, on a bien le temps d'avoir 3 ou 4 guerres mondiales, bien sûr.
Oui.
Mais il n'empêche, actuellement, toute cette frange d'adeptes, extrêmement active, compte bien, par son sacrifice, par son holocauste, changer la donne.
Merci Agnès Giard pour cet entretien tout à fait passionnant. Je rappelle votre livre « Les amours artificiels au Japon, flirt visuel » chez Albin Michel, « Flirt visuel et fiancé imaginaire » aux éditions Albin Michel. Chronique maintenant dans Mauvais Genre. Et pour commencer, l'almanach de l'étrange, Céline Duchesnay.
Déjà entendu parler des recluses médiévales, ces femmes qui passaient leur existence dans la prière, murées dans de toutes petites pièces sans jamais en sortir. Ce sont leurs noms que l'artiste Auréline Roy prononce et ressuscite dans une performance intitulée « L'histoire des recluses à liberté d'être enfermées ». Grâce à cette performance, on apprend que la recluse était une figure familière de la vie médiévale. On en trouvait partout en Europe, chaque ville ayant sa recluse, ou plutôt ses recluses. La ville de Rome, par exemple, en comptait 260 en 1320. Elles habitaient dans de microscopiques lieux, 2,40 m sur 2,40 m, appelés des reclusoires, espaces intégrés au mur d'une église, d'un cimetière, dans la muraille d'une ville ou le pilier d'un pont. Le point en commun de tous les reclusoires, c'est qu'ils n'avaient pas de porte. On y entre, on mure, on n'en sort plus et le principe est irréversible. La plus célèbre des recluses est probablement Paquette la Chantefleurie, un joli nom bien bucolique pour celle que Victor Hugo décrit dans Notre-Dame de Paris comme un squelette vivant croupissant dans une horrible cellule sans porte. Mais on se méfiera du 19e siècle et de ses fantasmes romantiques noirs pour aller chercher la réalité de ces femmes dans les travaux que leur a consacrés l'historienne Paulette Lhermitte-Leclerc, grande spécialiste des recluses. Et grâce à elle, on apprend que pour des centaines de femmes laissées pour compte et marginalisées, la réclusion pouvait représenter un dernier refuge honorable lié à une forme de perfection spirituelle. Loin d'être oubliée de tous et malgré sa solitude, la recluse était prise en charge par la communauté et vivait de nourriture et de dons qu'on lui passait grâce à une petite fenêtre. Il est difficile aujourd'hui de savoir à quel point c'était un véritable choix. Certaines femmes pouvaient vouloir accéder à ce statut pour échapper à pire encore, mais ce qui est certain, c'est que la recluse avait un statut à part, une sorte de sentinelle spirituelle qui protégeait de ses prières la ville et les habitants. Alors si Auréline Roy s'est penchée sur l'histoire de ces femmes, c'est parce qu'elle explore depuis toujours les limites du corps contraint à travers la performance et la photographie. S'allonger sans bouger sur un lit de glace, telle une gisante, s'enfermer dans une vitrine, immobile et debout sur des pointes pendant plusieurs heures, font partie de ses expériences artistiques. Et plus récemment, la rencontre avec les recluses l'a poussée à s'interroger sur l'enfermement. Elle a testé l'ermitage forestier, le béguinage, et s'apprête bientôt à se confronter à un long séjour, seule, dans un phare, sur une île inhabitée, cherchant à retrouver à travers ses expériences d'enfermement volontaire un lointain écho de la vie des recluses. Peut-on réellement choisir s'enfermer? Si oui, que découvre-t-on sur soi-même? Et sinon, que cela dit-il de la société et du sort des femmes? Autant de questions auxquelles Auréline Roy se confronte. On ira donc la voir à la tour médiévale Jean sans peur à Paris, où elle proposera sa performance « L'histoire des recluses, la liberté d'être enfermée » dans l'endroit le plus petit et le plus sombre de la bâtisse que je vous laisserai découvrir. Ce sera les 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre, et plus d'informations sur la page de l'Almanach de l'étrange.
Merci Céline. Agnès Giard, je voudrais avoir votre réaction sur les recluses. Il y a les recluses médiévales. Aujourd'hui, il y a les gens qui ne sortent plus de chez eux, les otaku, les gens qui sont coins comme ça, qui décident de se reclure. C'est quand même extraordinaire de voir qu'on a là une figure dont on se dit, oh bah oui, aux anges de la foi.
Mais contrainte, hein, contrainte.
Voilà,
les 2m40 sur 2m40. Hein.
Les moines dans le désert, les recluses, mais il y a quand même une permanence de cette espèce de stratégie comme ça, dans réclusion et d'isolement.
Oui, d'une certaine manière, oui. Se soustraire aux injonctions du monde, c'est une manière de s'enfermer dans sa bulle, c'est-à-dire de refuser de jouer le jeu au profit d'un autre jeu qui serait un jeu de vertige, hein, puisque la spiritualité est une manière de basculer dans je sais pas.
Dans autre chose, ouais. Absolument. Sixtine Audebert.
Non, pas que... Non, tu n'épouseras pas ce jeune homme-là, mais moi j'aime lui. Dans les regards lui, quand il sourit, de ce que je lui dis. Mon père m'a dit, ma mère aussi, tu épouseras ce monsieur si il est gentil et puis poli. Mais non, papa, je n'épouserai pas.
Sixtine.
Je vais vous parler de, bien sûr, l'écrivain, metteur en scène et réalisateur Marc Gilbert Guillaumin, que personne ne connaît évidemment sous ce nom, son véritable nom, mais plutôt sous son mystérieux pseudonyme Marc apostrophe O, Marco, un dandy intellectuel autodidacte, flamboyant et révolté, comme seules les décennies d'après-guerre savaient en façonner, et qui nous a, hélas, quittés en juin dernier. Alors cette chronique est une sorte de petit hommage à l'occasion de la sortie d'un fastueux livre d'entretien, L'Art d'en sortir, signé par le fondateur des éditions Alia lui-même, Gérard Bérébi, qui, comme chacun le sait, œuvre pour la postérité des héros AUTS d'une certaine conception de la jeunesse. Alors, l'ouvrage prend la forme d'un entretien au long cours qui relève autant du précis théorique que de la chronologie fine de la grande geste oïenne, hein, car l'homme mérite bien son adjectif, et on y découvre sa trajectoire impeccable qui montre à quel point on peut être l'incarnation de ses idées. Alors, pour vous résumer un peu tout ça, après avoir rejoint le maquis à 14 ans, attention, le jeune Marco fréquente toutes les sacro-saintes avant-gardes parisiennes, surréalisme, existentialisme, lettrisme, situationnisme et même nouvelle vague, des courants autour desquels il gravite et contribue. Rappelons qu'il a produit le traité de Bave et d'éternité d'Isidore Isou, qu'il a publié le premier article de Debord. Donc il contribue sans appartenir réellement à aucune chapelle ni souscrire à aucun parti. Et après un premier film qui est pourtant adoubé à Cannes par Cocteau et Buñuel, il se tourne vers le théâtre, pratiquant une sorte de happening rivé au corps et baigné de rock à la croisée entre la transe artaudienne et les expériences américaines du spectacle de rue. Et qui doit surtout, et c'est le point le plus important pour lui, laisser toute sa place à l'acteur comme créateur. Et c'est peut-être cette conviction et ce dévouement qui le place sans doute aujourd'hui dans l'ombre de ceux qu'il a consacrés, Jean-Pierre Calfon, l'immense Pierre Clémenti, l'immense Bulogier qu'on vient d'entendre chanter donc dans Les Idoles, et plus tard même Catherine Ringer hein, dans ses Flashs Rouges. Bref, la liste de ses bienfaits est encore longue. Ajoutons simplement que cet inestimable échange en clos donc dans l'ouvrage de Gérard Bérébi s'étoffe de fourmillants documents d'archives, d'entretiens complémentaires avec ses acolytes, donc bien sûr Calfon, Augier, mais aussi Aube Breton, Jean-Noël Pic, Jean Bouquin, pour n'en citer que quelques-uns, et de Marginalia, alors là, aussi précieuse que le corps du texte lui-même. Donc c'est L'art d'en sortir de Gérard Bérébi et c'est publié bien sûr aux éditions Alia.
Merci Sixtine. On termine avec vous Fausto, DVD Roboto.
De Blu-ray.
Blu-ray. Oh.
Blu-ray, voyons quel François.
Faute de goût.
VHS, non
Blu-ray. Blu-ray à 78 tours. De Kinji Fukasaku, film absolument extraordinaire.
Oui, un chef-d'œuvre, je crois qu'on peut le dire.
Voilà, je confirme.
Peut-être le premier chef-d'œuvre dans la carrière de Kenji Fukasaku, un film tourné pour le studio Toei en 1964. Et ce qui est très intéressant, c'est que 1964, évidemment, ce sont les fameux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est l'inauguration du Shinkansen, c'est donc le Japon qui relève enfin la tête et qui est en plein essor industriel. Sauf que Fukasaku, ça ne l'intéresse absolument pas de filmer ça. Lui, il va placer sa caméra en fait au sud-est de Tokyo, à Edogawa, et il va filmer en fait eh bien des bidonvilles. Le film est très ramassé, hein, hommes, porcs et loups. Je vous laisse deviner qui est l'homme, qui est le porc, qui est le loup. C'est assez évident en fait à la fin du film de savoir comment se dessinent ces qualifications pour les personnages. Et il filme donc ces bidonvilles dans un Japon qui est en pleine reconstruction. Et ce qui est toujours très frappant dans le cinéma de Kenji Fukasaku, c'est effectivement l'énergie qu'il déploie avec cet accompagnement musical jazzy, son sens du cadrage, du décadrage, ses travelling brutaux, ses tournages guérilla dans une gare de Shibuya sans avoir même prévenu les voyageurs. Bref, il y a une dimension d'authenticité très forte dans son cinéma qui n'est pas étonnante puisque quand on voit le film, en fait, on pense, j'ai envie de dire, immédiatement au néo-réalisme italien. Et quand on regarde les bonus, parce qu'il y a pas mal de bonus sur le Blu-ray, on en apprend un petit peu plus. Il y a une interview de Junya Sato, qui était réalisateur et qui est ici scénariste. Il y a une interview aussi de Tatsu Yoshida, qui est producteur. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir un petit peu d'où a émergé ce projet. On avait d'un côté un producteur, Tatsu Yoshida, qui lui était en fait un amateur de littérature française et qui voulait adapter Les Frères Rico de Georges Simenon. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu d'une certaine manière des espèces de relents ricoïens dans le film. Et on avait Junya Sato, scénariste, qui lui en fait avait cette culture justement de néo-réalisme et l'a appliqué en fait à ses écrits et ensuite qui ont été magnifiés par sous la caméra de Kenji Fukasaku.
Absolument, Fausto. Donc c'est le label Roboto.
C'est le label Roboto qui effectivement nous sort de très beaux films japonais dans des copies restaurées et avec des bonus qui sont toujours très substantifiques. Alors,
film absolument extraordinaire. J'en rajoute une couche. Merci Agnès Giard d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Merci. Les Amours Artificiels aux Japon, c'est aux éditions Albin Michel. L'Art d'en sortir de Bérébi et Marco, c'est aux éditions Alia. Et puis Auréline Roy sur les recluses du Moyen-Âge, c'est au don la tour Jean Sans Peur.
Exactement. Voilà. La prochaine date, le 18 octobre.
Absolument. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laure Pollerin, Anthony Thomasson, Claire Poissignon, Céline Duchesne, Claire-Martin Dugarcy, Sylon de Berre, Fausto Fazulo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve samedi prochain à 20h pour évoquer Rachilde.